Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution. On retrouve Clément Moutier.
Mercredi 27 juin 2012, la Fondation Olivier Le Serre a récompensé l'association GERM, groupe d'entraînement et de réflexion au management des entreprises, en lui remettant la médaille Olivier Le Serre, lors d'un colloque portant autour des actions menées par GERM pour un management plus humain. Bertrand Collomb, l'un des fondateurs de la Fondation Olivier Le Serre, est mon invité aujourd'hui pour évoquer ce prix. Monsieur Collomb, bonjour.
Bonjour.
Alors, Monsieur Collomb, vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 2001 dans la section économie politique, statistiques et finances. Vous fûtes également le président directeur général de Lafarge de 1983 à 1985, puis du groupe Lafarge jusqu'en 2003, une société leader dans la production de ciment. Et je vais passer évidemment les différentes fonctions que vous avez occupées tout au long de votre carrière, sinon nous n'aurions que très peu de temps. Et nous allons tout de suite nous intéresser à ce prix Olivier Le Serre. Olivier Le Serre qui a été donc le président de Lafarge de 1974 à 1989. Et donc c'est pour honorer sa mémoire et récompenser des réalisations, des travaux ou des ouvrages qui, je reprends ses propos, s'inscrivent dans l'approche humaniste du management des entreprises, que vous avez créé donc en 2008 cette fondation Olivier Le Serre, avec le soutien de L'Oréal, du groupe Lafarge et de Saint-Gobain. Alors, Monsieur Collomb, quels sont les principes de management humaniste que vous récompensez chaque année avec ce prix Olivier Le Serre ?
Chaque année, nous essayons de montrer que finalement, un management qui respecte les hommes et qui considère les hommes comme la plus grande richesse de l'entreprise est un management efficace et performant. Alors, nous avons donné ce prix d'abord à un ancien DRH qui avait fait un livre, puis à des chefs d'entreprise. Et cette année, effectivement, nous l'avons donné à un réseau de cadres, de patrons de petites entreprises qui travaillent ensemble pour, disons, trouver les meilleures solutions pour leurs pratiques de management. Et le thème de la matinée, c'était l'engagement collectif. Et nous avons eu beaucoup d'exemples dans cette matinée qui montrent que, bon ben, quand on veut s'en donner la peine et quand il y a dans l'entreprise une confiance et des relations bonnes entre le management et les collaborateurs, c'est fou ce qu'on peut faire, c'est fou ce qu'on peut obtenir par cet engagement collectif, même dans les situations les plus difficiles.
Et alors c'est l'entreprise GERM, je vais rappeler le nom en entier, groupe d'entraînement et de réflexion au management des entreprises, donc qui a remporté cette année ce prix Olivier Le Serre. Et en quoi il proposait une démarche pédagogique originale ? Est-ce que vous pourriez nous décrire le fonctionnement de cette
association ? Disons que GERM, c'est simple, ce sont des cadres d'entreprise ou des patrons de petites entreprises qui, par exemple, à Bordeaux, décident de se réunir. Ils sont membres de GERM, leur entreprise les fait membres de GERM, et ils décident de se réunir 10 fois par an, donc pratiquement une fois par mois, pour une journée, pour discuter ensemble des problèmes qu'ils ont dans leur management quotidien. Alors, ils ont des consultants qui peuvent venir pour les aider à faire ce travail. Dans chaque groupe, il n'y a jamais qu'une personne d'une entreprise donnée. On n'est jamais avec son patron ou avec un de ses collaborateurs. Donc, on est libre de son propos. Donc, il y a autant de groupes, par exemple, à Bordeaux, qui est nécessaire. Et voilà, il y a 1200 membres de GERM. Et alors, c'est très pragmatique, c'est très empirique. Donc, il n'y a pas une doctrine de GERM. Mais quand on regarde les mots-clés, si vous voulez, c'est confiance, respect, ouverture, dialogue. L'humanisme est partout dans la façon dont ils travaillent, même si il n'y a pas une charte de GERM, si vous voulez. C'est pas des gens qui travaillent au niveau d'une définition conceptuelle. Ils travaillent très pratiquement en disant, voilà, moi, j'ai telle difficulté. Comment est-ce que je peux faire? Et un autre va leur dire, moi, j'ai eu un problème. Et voilà la façon dont j'ai réussi à ce que mon équipe réagisse bien etc. Et dans les discussions que j'ai eues avec GERM, que nous avons eues avec GERM avant de leur attribuer le prix, on s'est rendu compte que vraiment les valeurs humanisme étaient à la base de ce qui faisait la force de ce réseau.
Pierre Burello, qui est le président national de GERM, qui était présent lors de ce colloque du 27 juin 2012, parlait d'une réelle bouffée d'oxygène, c'est-à-dire que quand un manager a besoin de prendre un peu de recul, on l'inscrit chez GERM et cela l'aide donc à prendre un nouvel élan.
Tout à fait, vous savez, c'est pas toujours facile, en particulier dans ces périodes de crise. Et dans les situations difficiles, les managers ont des difficultés, ont du problème. Donc, se retrouver avec d'autres, pouvoir prendre du recul, pouvoir réfléchir sans la contrainte immédiate, c'est tout à fait fondamental.
Et Xavier Darcos, qui était aussi présent lors de ce colloque, donc Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, a mis en avant aussi cette notion de réseau. Est-ce que pour vous, ce réseau-là, c'est aussi quelque chose d'important à développer dans une entreprise ?
Ben, si vous voulez, moi je crois beaucoup à ce management humaniste parce que j'en ai l'expérience. Parce que en 17 ans de patron de Lafarge, et même avant que je sois le patron, je me suis aperçu que c'était vraiment en adoptant une approche humaine qu'on amenait les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, alors ce réseau, si vous voulez, c'est une façon de montrer que ces idées ne sont pas isolées. Parce que souvent, on me dit, oh, oui, Lafarge, d'accord, on sait, Lafarge a une bonne réputation sur ce plan-là, mais l'entreprise en général, c'est pas ça. L'entreprise, c'est la brutalité, c'est la contrainte financière brute, etc. Et moi, ce qui est très intéressant dans ce réseau, c'est qu'on a 1200 personnes dans des tas d'entreprises, dans des tas de secteurs, et que tous, ils ont... Alors, ils n'ont pas forcément tous ni la même réaction, ni le même style, ni le même profil. Heureusement, ils sont certainement très divers. Non ? Mais ils ont tous les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés et les mêmes opportunités, les mêmes espoirs. Et c'est apparu d'ailleurs dans le cadre de la table ronde où on a échangé des témoignages.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les patrons font plus attention peut-être à la santé morale et aux qualités des relations humaines dans une entreprise, peut-être avec l'effet de la crise ?
Je pense que sous l'effet de la crise, il y a probablement des gens qui ont des réactions assez différentes. Il y a ceux qui vont au plus simple, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer de serrer les boulons et de faire fonctionner le pressoir par la force pour obtenir le maximum des gens en les comprimant. Bon, c'est une réaction qui est compréhensible, c'est la réaction au premier degré. Et puis c'est une réaction qui a peut-être été un peu popularisée par la façon dont les managers ont été décrits par les médias ou même dans les écoles, c'est-à-dire... Le manager charismatique, brutal, héroïque, a été à certains moments valorisé. Donc si je suis quelqu'un qui affirme très fortement ce que je veux, qui l'obtient sous la contrainte, ça peut être une solution. Alors il y a des gens d'ailleurs qui réussissent en faisant ça, pas forcément très longtemps, mais en tout cas pour moi c'est certainement pas la meilleure façon. Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont des hommes de bonne volonté, et qui ont envie de trouver des solutions aux problèmes sans brutaliser les collaborateurs. Ils ne savent pas tous que c'est possible, et ils ne se rendent pas tous compte du fait que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un prix, c'est important d'enseigner dans les écoles de management que le management humaniste, non seulement ça existe, c'est possible et ça marche.
Est-ce qu'aujourd'hui, en 2012, le but d'une entreprise dépasse celui de la rentabilité ? Et aussi celui d'œuvrer pour un progrès social.
Alors, si vous voulez, quand vous regardez l'histoire de l'entreprise, mon antéprédécesseur, Marcel de Monc, disait en 1960-70 que l'entreprise, elle était au service de l'homme et des hommes. Alors, les hommes de l'intérieur, les employés, les clients, les actionnaires, bien sûr, mais aussi les collectivités où elle travaillait. Donc, l'idée que l'entreprise n'avait pas comme seul objectif de fournir des profits pour les actionnaires, qui était bien sûr nécessaire parce que sinon l'entreprise montre qu'elle n'est pas efficace, cette idée était une idée assez générale. Dans les années 80, il y a eu une montée en puissance de l'actionnaire et d'un actionnaire vu d'une façon très court terme. Et ça, ça aboutit à la crise de 2008. Donc je crois que maintenant, on est dans une meilleure position pour dire à nouveau, l'entreprise, c'est un lieu où il se crée de la valeur pour la société. Et cette valeur, elle se distribue aux clients d'abord, parce que n'oublions pas que c'est les clients qui reçoivent l'essentiel de la valeur d'entreprise créée par l'entreprise. Les prix des produits baissent, les produits sont de meilleure qualité, etc. Et ensuite, pour les collaborateurs, les actionnaires et, disons, que les collectivités et l'environnement. Cette idée revient comme une idée normale. Donc oui, je pense que de plus en plus, on peut dire l'entreprise n'est pas exclusivement au service des actionnaires, elle est au service d'un certain nombre de parties prenantes. Et on peut même dire que quand on a des actionnaires intelligents, ça arrive, ils ne le sont pas tous, mais ça arrive, eh bien, ils comprennent très bien que leur succès à eux, qui est le succès de l'entreprise dans le long terme, il ne se construit pas en massacrant les clients, en massacrant les employés ou en massacrant les collectivités où on travaille. Il ne peut s'obtenir qu'en montrant à tous ces gens-là que l'entreprise leur apporte aussi quelque chose. Et que c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que l'entreprise, en définitive, apporte à ses actionnaires la meilleure rentabilité dans le moyen et le long terme.
C'est cette notion de donnant-donnant qui a été aussi développée par les chefs d'entreprise présents lors de ce colloque, c'est-à-dire qu'il faut donner au salarié pour que lui aussi vous donne par la suite.
Tout à fait.
Mais concrètement, comment, par quelles actions, un manager devient plus humaniste ? Concrètement, est-ce qu'il y a des exemples ?
On a entendu beaucoup d'exemples. Ces exemples montraient l'effet d'un climat de confiance qui avait été créé dans l'entreprise. Parce que, attention, quand vous avez un problème, si vous voulez trouver une solution, c'est pas au moment où le problème est sur la table qu'il faut commencer à se dire « Tiens, ça serait bien s'il y avait un climat de confiance ». Parce que si vous n'avez pas construit ce climat de confiance dans les périodes heureuses, il n'existera pas dans la crise. Et dans la crise, personne ne vous fera confiance. Et à ce moment-là, s'il y a méfiance, il y a conflit, il y a bagarre. Bon, on a entendu des exemples absolument passionnants. Les huîtres Gilardeau, vous savez, vous connaissez, vous en avez sans doute mangé dans des restaurants. Eh bien, ils ont eu un problème, il y avait un virus à Oléron, et ils ont été obligés, en 24 heures, de décider de changer leur élevage d'huîtres d'endroit. Il a fallu qu'ils travaillent pendant des week-ends entiers, etc. Et ils nous ont expliqué comment leurs équipes, c'est une petite entreprise, mais ils avaient quand même une centaine de personnes ou quelque chose comme ça, eh bien, leurs équipes s'y sont mises à fond. Il y en a une, je crois, qui a dit « moi, je peux pas parce que vraiment, j'ai des enfants en bas âge, ça va me causer des perturbations, etc. » Et on l'a compris. Mais tous les autres ont dit « on y va, on va travailler comme des dingues pendant un certain nombre de semaines, mais ça vaut la peine, on va ensemble sauver l'entreprise. » D'autres exemples qui n'étaient pas une situation vraiment de crise, mais une situation terréale qui fait des tuiles et des briques. Ils avaient une usine qui était un peu en fin de course, dont les produits étaient plus très à la mode, etc. Bon, ils ont décidé d'améliorer la gamme de produits, de refaire la gamme de produits. Et puis, bon, un jour, des collaborateurs de l'usine sont arrivés et dire au directeur, dites, nous, on a une idée, ces nouvelles tuiles, il faut qu'on en fasse la promotion, ça va pas se vendre tout seul. Et on a une idée tout seul, on a, sur notre temps personnel, on a fait des petits moules et on a fait du chocolat en forme de tuiles qu'on a fait faire par le pâtissier local. Alors, on a fait une boîte, et on vous amène ça et on vous suggère que on devrait faire ça et le distribuer à nos clients. Eh bien, si vous voulez, le collaborateur qui, sur son temps personnel, en ayant de l'innovation, de l'idée, etc., fait une chose comme ça, ça montre que ce sont des gens qui sont extraordinairement engagés dans leur métier. Du coup, d'ailleurs, Terreal a effectivement développé l'idée. Ils ont utilisé un autre exemple, Beneteau. Là, on est encore dans la crise. Quand il y a eu la crise 2008, Beneteau, c'est le leader des bateaux de plaisance. Eh ben, brusquement, les bateaux de plaisance, quand on est dans la crise, les gens n'achètent plus. Donc, leurs ventes ont baissé de 70%. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Ben, on licencie tout le monde, ou 70% des gens. Ils ont dit, ben, dans ce cas-là, ça veut dire on disparaît si on n'a plus de gens compétents, etc. Donc, alors là, ils ont le soutien de leur actionnaire, car c'est une entreprise encore largement familiale. Donc, l'actionnaire a accepté de continuer à investir dans l'entreprise pour passer cette période. Et ils ont mis tout le monde à faire des nouveaux modèles de bateaux. Alors que les autres avaient arrêté leur fabrication, et quand ça est reparti, ils n'avaient rien à vendre, eux, quand c'est reparti, ils avaient non seulement des bateaux à vendre, mais ils avaient des bateaux meilleurs que la concurrence et meilleurs que ceux qu'ils faisaient avant. Donc vous voyez, le cas de Beneteau est intéressant parce que non seulement la direction et les employés ont joué le jeu, mais les actionnaires aussi. Un autre exemple, Terreal. L'actionnaire de Terreal est un fonds de ce qu'on appelle private equity, c'est-à-dire un fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement n'ont pas souvent une très bonne réputation. On considère que ce sont des gens qui ne pensent qu'à leurs résultats nets. Eh bien, ces gens-là ont très bien compris que Terreal, c'était une entreprise qui marchait avec une certaine culture d'entreprise, qui marchait parce qu'il y avait une solidarité et une confiance entre la direction et les équipes. Et ils ont soigneusement préservé cela, car ils savent que c'est une des conditions du succès de l'entreprise.
Et alors, lors de ce colloque, M. Collomb, Thierry Gilardeau, donc le patron de l'entreprise Gilardeau, spécialiste des huîtres, qui est adhérent au Germe, a cité son exemple, donc son entreprise d'environ 200 salariés, et il expliquait qu'il n'y avait pas de DRH, qu'il n'y avait pas de directeur de relations humaines, mais plutôt une gestion au cas par cas des salariés. Est-ce que ça pourrait devenir un modèle aujourd'hui ?
Non, alors je crois que si vous voulez, ce qui était très intéressant dans cette réunion, c'est qu'il y a une grande diversité. Et que Germe, ou d'ailleurs le management humaniste, c'est pas à propos de recettes. Il n'y a pas de recettes qui marchent partout. Du moment que chacun invente son approche, dans une entreprise de 200 salariés, dont le patron a décidé que les ressources humaines c'est fondamental et qui va s'en occuper lui-même. Et que chaque patron d'un petit secteur, d'un service, s'en occupera aussi lui-même. On peut très bien ne pas avoir de directeur de ressources humaines. Dans une grande entreprise, ça serait idiot, parce que le patron ne peut pas faire tout en même temps. Donc, si vous voulez, ce qui marche dans une entreprise ne marchera pas forcément dans une autre. L'essentiel, c'est l'inspiration. C'est de dire, les hommes, c'est tellement important, dans un cas, je veux m'en occuper moi-même, ou au contraire, dans un autre cas, les hommes, c'est tellement important, je vais avoir un service très développé pour s'en occuper.
Eh bien, merci Monsieur Collomb. Alors, est-ce que, par exemple, pour ce nouveau prix Olivier Le Serre, vous avez déjà quelques pistes, quelques lauréats ?
Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, puisque les prix ne seront annoncés qu'au mois de novembre. Mais je peux vous faire une confidence, on va probablement aller faire un petit tour à l'étranger.
Eh bien, nous vous suivrons pour ce petit tour à l'étranger. Merci Monsieur Collomb et à une prochaine fois pour une nouvelle édition du prix Olivier Le Serre. Merci à vous. Thank you.